Une bonne nouvelle d'après Jean, lecture suivie de l'évangile de Saint Jean, dans une traduction transposition de Vincent-Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
La leçon de théologie de la synagogue de Capharnaüm au chapitre 6 de Jean est structurellement importante à cause de sa construction, de sa répétition, de son insistance. On sent ici tout un texte élaboré par des années, des décennies de méditation de cet apôtre le plus jeune, qui nous rapporte avec cette insistance une réalité d'autant plus importante qu'elle est le cœur même de la vie chrétienne, la présence en son sein, la présence réelle, réaliste, la présence objective, la présence sensitive du Seigneur et Maître Jésus-Christ mort et ressuscité, sous les apparences, puisque c'est l'expression classique du pain et du vin. Nos yeux voient le pain et le vin, et notre foi y voit le corps et le sang du Christ. Capacité donnée, habilitation confiée, charge remise aux prêtres, c'est-à-dire à ceux qui, à la suite des apôtres, continuent de consacrer du pain et du vin pour en faire le corps et le sang du Christ. Cela n'a aucune évidence première, parce que cela ne relève pas d'un raisonnement humain, d'une démonstration. Cela relève d'une expérience. C'est sur la foi de l'expérience des apôtres qui ont vécu cette dernière scène, ce dernier repas du soir, là où, à la fin, des agapes fraternelles du pain et du vin traînant sur la table ont été pris par Jésus pour être transformés dans son corps et dans son sang, suivant ses paroles. C'est en mémoire de lui que nous le faisons. Voilà, ça c'est la théorie, belle théorie, mais c'est la théorie. Or, tout le chapitre 6 ne fait que le répéter avec une insistance, je dirais pas maniaque, mais telle que elle est la preuve, cette insistance répétitive, que c'est ce dont il s'agit et que si nous n'entrons pas là-dedans, nous ne sommes pas chrétiens. C'est-à-dire que nous ne croyons pas que ce Jésus de Nazareth est le Christ, le Fils de Dieu, présent parmi nous sous apparence du pain et du vin. Vous imaginez, et si je vous répète avec insistance moi-même cette chose-là, c'est qu'il y a, il faut le dire, très peu de chrétiens, en fait. Il y en a beaucoup qui ont été baptisés, qui sont recensés comme étant catholiques romains. Mais croire à cela, c'est l'évidence même, entre guillemets, le mot évidence, de notre foi. D'autant plus qu'elle est reliée à un deuxième aspect, c'est que celui qui mange ma chair et boit mon sang, premièrement, demeure en moi et moi en lui, et je le ramènerai à la vie à la fin des temps. C'est-à-dire que la mort est vaincue par le mystère même de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Mort et résurrection, dont nous sommes nous aussi les héritiers, autant de la mort, nous devons mourir, comme tout être humain, comme toute chair, comme toute créature, d'une part, et d'autre part, appelé comme lui à ressusciter par la force de l'Esprit. Ça, c'est le mystère même. Qui confesse entièrement ce mystère ?
Cinquième semaine. Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée, car les Juifs cherchaient à le supprimer. C'était à l'époque de la fête juive qu'on appelle Soukkot, ou la fête des cabanes. Il y a eu une discussion entre Jésus et ses frères. « Va donc en Judée, lui dirent-ils, pour que tes disciples aussi puissent voir ce que tu sais faire. On ne fait rien en cachette si on veut être connu. Puisque tu sais faire quelque chose, fais en sorte que tout le monde te voie. » Effectivement, sa propre famille ne croyait pas en lui. Et Jésus leur répondit, « Ce n'est pas encore le moment. Pour vous, peu importe, hein. Le monde ne peut pas vous haïr, mais moi, il me hait parce que je déclare mauvais tout ce qu'il fait. » Eh bien, montez à la fête, vous autres. Moi, je n'y vais pas. Ce n'est pas encore mon heure. » Et Jésus resta en Galilée. Mais une fois tout le monde parti, il se mit en route, à son tour, en cachette. Les Juifs le recherchaient, se demandaient où il pouvait bien être. Son nom était dans toutes les bouches. « C'est un type bien. » « Non, disaient d'autres, il trompe les gens. » Mais personne ne prononçait son nom en public, de peur des Juifs. On en était au milieu des festivités quand Jésus monta au sanctuaire pour enseigner. Étonnement des Juifs. Comment peut-il en savoir autant s'il n'a jamais étudié? Jésus réplique aussitôt. Ce que j'enseigne ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Quiconque est prêt à faire la volonté de Dieu verra de suite si cet enseignement vient de Dieu ou de moi-même. Celui qui parle en son nom propre cherche sa propre gloire. Seul celui qui travaille à la gloire d'un autre qui l'a envoyé dit la vérité, et il n'y a rien de faux en lui. Moïse vous a bien donné la loi, mais aucun de vous ne la suit. Et brutalement, « Pourquoi cherchez-vous à me supprimer ?» On lui répond, « Tu es possédé. Qui cherche à te tuer ? J'ai fait une seule œuvre, et vous êtes tous étonnés ? Parce que Moïse vous a donné la circoncision. En fait, elle ne vient pas de Moïse, mais de vos ancêtres. Vous la pratiquez même le sabbat. Alors si vous allez jusqu'à circoncire même le jour du sabbat pour respecter la loi de Moïse, pourquoi cette colère contre moi quand je guéris ce même sabbat un homme tout entier? Allez, ne vous fiez pas aux apparences, aiguisez votre jugement. » En observant cette scène, des habitants de Jérusalem s'écrièrent, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à supprimer? Il parle en public et ils ne lui disent rien. Nos chefs auraient-ils finalement reconnu qu'il est le Messie? Mais lui, nous savons d'où il est. Quand le Messie viendra, personne ne saura d'où il vient. » À ces mots, Jésus se mit pratiquement à hurler dans le sanctuaire. « Savez-vous, vauriens, qui je suis et d'où je viens? Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est digne de confiance, croyez-moi. Vous ne le connaissez pas. Moi, je sais qui il est, parce que je viens d'auprès de lui et que c'est lui-même qui m'a envoyé. » Ils cherchèrent alors à l'arrêter, mais personne ne réussit à mettre la main sur lui. Son heure n'était pas encore venue. Dans la foule, pourtant, beaucoup crurent en lui. « Le Messie, quand il viendra, disait-il, ne fera pas plus de signes que lui. » En entendant tout ça, les pharisiens se mettent d'accord avec les chefs des prêtres, et ils envoient des gardes pour l'arrêter. « Je ne suis plus avec vous pour beaucoup de temps encore. Je m'en retourne chez celui qui m'a envoyé. Vous aurez beau me chercher, vous ne me trouverez pas. Là où je suis, vous ne pouvez venir. » Les Juifs n'y comprenaient rien. « Mais où va-t-il donc que nous ne puissions le retrouver ? Chez les Juifs émigrés en Grèce pour les enseigner ? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous aurez beau me chercher, vous ne me trouverez pas. Là où je suis, vous ne pouvez pas me venir. » On arriva au dernier jour de la fête. C'était le plus important. Debout, face à la foule, Jésus cria à haute voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, l'Écriture le dit, de son ventre ruisselleront des fleuves d'eau vive. Jésus voulait parler de cette force spirituelle qu'allaient recevoir ceux qui croyaient en lui. Cette force n'était pas encore sensible, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ces paroles de Jésus provoquèrent dans la foule tout un ensemble de réflexions. « C'est le prophète, c'est le Messie !» Mais, rétorquaient les autres, « le Messie peut-il venir de Galilée ?» L'Écriture dit que le Messie sera un descendant de David et qu'il viendra de Bethléem, le village d'où était David. Si bien que la foule finit par se diviser à cause de Jésus. Certains voulaient l'arrêter, mais encore cette fois, personne ne mit la main sur lui. Quant aux gardes, ils retournèrent auprès des chefs, des prêtres et des pharisiens. « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? Jamais personne n'a parlé comme cet homme. Ah, vous aussi, vous vous êtes laissé séduire. Y a-t-il un seul de vos chefs ou un seul pharisien qui ait cru en lui ? Mais cette foule qui ne comprend même pas la loi, ce sont des maudits !» Nicodème était là. C'est lui qui avait été voir Jésus quelque temps auparavant. Il éleva un peu la voix. « Est-ce que notre loi juge un homme sans l'avoir d'abord entendu pour savoir ce qu'il a fait ?» Il s'entendit répliquer. « Es-tu de Galilée, toi aussi ? Relis les Écritures, tu verras qu'aucun prophète n'est jamais venu de Galilée. » Chacun se décida alors à rentrer chez soi.
Voilà, il y a la loi, il y a comment les choses doivent se faire, doivent arriver, et si les choses n'arrivent pas comme on a décidé qu'elles doivent arriver, eh bien, elles ne sont pas reconnues. En voilà quelqu'un, une espèce de troublion total qui remet en question tout ce qui a été établi comme étant les règles selon lesquelles les choses doivent se passer. Bon, on peut comprendre que seulement la perturbation comme cela, il trouble l'ordre public, c'est une atteinte à la sûreté intérieure de l'État, il met en question le système qui fonctionne, il faut l'écarter, il faut l'arrêter, il faut le supprimer. D'ailleurs, nous sommes à peine au chapitre 7 de Jean, et nous voyons déjà la mise en place du complot qui finira par l'avoir. Cette dramatisation est terriblement efficace, on voit ici à la fois la force de l'homme Jean, ou de celui qui a rédigé, et l'inspiration du génie qui ne peut venir que de plus haut, de plus loin, de plus profond.
C'était une bonne nouvelle d'après Jean, une traduction transposition du père Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.